Permettez-moi, avant toute autre chose, de vous faire part de mon grand étonnement. Étonnement d'avoir été invité il y a quelques mois à passer en ce 11 novembre d'une de ces très nombreuses chaises à cette estrade. Mon étonnement, croyez-moi bien, est grand à plus d'un titre. C'est aussi évidemment un honneur auquel je ne me serais nullement attendue. Ceux d'entre vous qui me connaissent un peu et qui ont suivi avec moi il y a un problème de micro. Hein. Voilà. Ceux d'entre vous qui me connaissent un peu et qui ont suivi avec moi il y a quelques années des ateliers à l'église de Woluwe craignent peut-être le pire, c'est-à-dire un cours d'histoire et le risque d'une méchante migraine en sortant de cette salle à la pause. Mais je remarque toutefois que mon nom et ma photo sur l'affiche ne vous ont pas dissuadé de venir pratiquement aussi nombreux que les années précédentes. Et rassurez-vous, je me garderai bien de vous faire subir une conférence académique sur les évangéliques, ah, vous en avez déjà entendu, hein, dont vous sortiriez la tête bien pleine. Eh bien non, aujourd'hui ce n'est pas un professeur d'histoire qui vous parle, mais c'est l'une d'entre vous, convaincue que l'histoire, pour laquelle j'ai une petite prédilection tout de même, n'est pas seulement une énumération de faits qui procurerait, comme l'a rappelé Francis, un savoir intellectuel, mais qu'elle nous aide véritablement à comprendre le présent, à nous situer dans la société, à envisager l'avenir et à nous encourager dans la foi. La Bible regorge de récits historiques, dans l'Ancien Testament bien sûr, mais aussi dans le Nouveau, à commencer par les textes des Évangiles eux-mêmes, et celui des Actes des Apôtres, sans lesquels, où serions-nous ? Texte qui, de l'aveu de l'apôtre Jean, pourtant témoin privilégié, sont loin d'être exhaustifs. Ces textes sont destinés non seulement à nous informer et à porter le message de l'Évangile, mais à nous encourager et à nous fortifier. Jean l'écrit lui-même, « Je vous ai écrit pour que vous croyiez. Je vous ai écrit pour que vous soyez en communion avec nous. Je vous ai écrit pour que notre joie soit complète. » Et je constate que souvent, dans la Bible, le souvenir et la mémoire des temps passés sont source d'encouragement et même de légitimité. Aujourd'hui, 11 novembre, ce n'est pas seulement la date de la énième convention des AEPEB, c'est aussi la date de l'armistice de 1918, mettant fin à plus de 4 années d'une guerre particulièrement meurtrière. C'est la date commémorative commune de la fin des 2 guerres mondiales, dont il reste de moins en moins de vétérans. Presque plus de témoins des combats, presque plus de rescapés des camps de concentration. On arrive à la fin du témoignage direct, du témoignage oculaire. Que savent les plus jeunes de cet épisode tragiquement majeur de notre histoire, qui est pourtant une histoire proche ? Mes propres grands-parents m'ont abondamment raconté le quotidien durant l'occupation allemande, les restrictions alimentaires, les confiscations, le couvre-feu, la difficulté des déplacements, les bombardements, à commencer par l'exode qu'ils ont vécu alors qu'ils venaient de se marier en mai 1940. Et ils avaient alors 25 ans. Si le souvenir de cette époque nous semble d'autant plus lointain que depuis, l'histoire mondiale a vu s'enchaîner les conflits armés, que l'humanité a mené de nombreux autres combats et que la construction européenne a pris le pas sur l'impérialisme d'une nation voisine, que dire de la fondation de nos églises, non pas seulement leur fondation individuelle, mais l'événement qui en a posé les fondements il y a 500 ans. Au cours de cette année 2017, comme vous le savez bien évidemment, se sont multipliés les événements en tout genre et dans tous les milieux commémorant la réforme protestante. Et à la fin du mois d'octobre en particulier, des cérémonies officielles ont été organisées par les deux autorités du culte protestant. Je n'étais pas présente à celle de l'EPUB, mais bien à celle qui s'est déroulée le 31 octobre à l'initiative du Synode fédéral dans les locaux de l'église du Moniteur à Bruxelles. Et c'était très beau. Magnifique soirée de célébration en présence de représentants des différents cultes, en présence d'autorités politiques. Ce fut un moment exceptionnel pour les évangéliques, moment exceptionnel de marquer leur existence de manière aussi officielle. Les célébrations d'anniversaire sont souvent l'occasion de se prêter à des rétrospectives aux accents un peu passéistes. Mais je voudrais plutôt, cet après-midi, que nous tournions nos regards vers l'avenir. Il serait tentant et facile de vous parler pendant 45 minutes de ce qui s'est passé il y a 500 ans, car que savons-nous réellement de ce qu'a été la réforme, après tout ? Mais je voudrais plutôt vous parler de vous, de nous, des églises, et vous convier à un parcours à travers le temps afin de dégager quelques caractéristiques que j'espère utiles. Un article de La Libre Belgique du début de cette année, du 23 janvier 2017 précisément, mettait en évidence l'importante expansion des églises évangéliques à Bruxelles et en estimait le nombre à plus de 180. Aujourd'hui, plus de 80% des églises protestantes en Belgique, toutes dénominations confondues, sont de tendance évangélique. Elles forment donc une majorité au sein de la petite minorité protestante qui est estimée à environ 3% de la population belge. Dans certaines communes de l'agglomération bruxelloise, cette proportion est même de 100%. C'est le cas à Molenbeek. Grâce plutôt, il est vrai, au développement de communautés charismatiques de différents types qui sont les plus actives. Mais la plupart de vos églises, de nos églises, de taille variable, sont tout de même assez bien remplies le dimanche, ce qui peut donner l'impression qu'elles ont le vent en poupe, surtout si on les compare aux églises protestantes traditionnelles. Les sociologues s'accordent pour nous prêter une réelle prospérité. C'est sans doute vrai, mais pas de triomphalisme toutefois. Au XXIe siècle, on ne peut que constater que les évangéliques sont mal connus du grand public, mal relayés par les médias, souvent en raison de dérives flagrantes qui les mettent dans le collimateur de la presse, mais aussi fort mal connus d'eux-mêmes. Je voudrais commencer par vous citer un texte tiré non pas de la Bible, mais des archives d'une église située pas bien loin d'ici, à Courcelles. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les archives ont beaucoup d'importance. Elles ont valeur de référence et la fonction d'archiviste sous les règnes de David et de Salomon était une fonction élevée. Les archivistes étaient des hauts dignitaires de l'État. Et je constate non sans inquiétude que dans certaines églises évangéliques, autant on chérit les Écritures, autant la valeur des écrits en général, leur production et leur conservation laissent à désirer. Or, sans ces traces écrites de l'activité des églises locales, nous n'aurions aucune connaissance de leur passé, qui est pourtant essentiel à la construction de leur identité dans la société belge, identité non pas seulement spirituelle, mais aussi confessionnelle, essentiel à l'établissement de leurs racines en tant que minorité religieuse. Je cite donc un pasteur d'une église de Courcelles en 1928. Nous, chrétiens évangéliques, savons-nous dans quelles circonstances l'Évangile a été apporté dans notre région ? Quand vos enfants passent avec vous devant notre temple et qu'ils vous interrogent sur son âge, sur ses bâtisseurs, sur les raisons qui ont nécessité sa construction, savez-vous leur répondre ? Notre temple n'a-t-il pourtant pas une foule d'enseignements et de faits à nous rappeler ? N'a-t-il pas coûté des peines joyeusement acceptées pour l'amour de Dieu ? N'est-il pas le produit d'une foi jeune encore, mais fervente et audacieuse ? Fervente comme celle des nouveaux convertis et audacieuse comme celle de la jeunesse ? Dans le cadre du livre que j'ai contribué à préparer sur les temples protestants de Wallonie et dont Francis a eu la gentillesse de faire la promotion, j'ai effectué de nombreuses visites sur le terrain et je suis frappée par la monumentalité de certains bâtiments de culte protestants, toutes dénominations confondues, dont j'ai constaté qu'ils constituent aujourd'hui l'unique trace visible et vraiment concrète de notre existence dans le paysage de notre pays, tellement nous nous montrons discrets. Ils sont un témoignage et une foule d'enseignements. Ils ont une foule d'enseignements à nous apporter. Et au fond, Jésus lui-même le dit à propos de ses disciples. Si eux se taisent, les pierres crieront. Ce que vous croyez évident, normal, biblique de dimanche en dimanche, n'est en réalité que le résultat d'un long cheminement dont je vais à présent mettre en évidence cinq éléments. Premièrement, la prospérité que les sociologues nous prêtent, à mon avis à juste titre, est le résultat d'un pluralisme philosophique et religieux aujourd'hui illimité et d'une totale liberté de fonctionnement, de rassemblement et de doctrine. Ce grand confort, nous le devons au régime des cultes inscrit dans la Constitution belge de 1831, régime particulièrement favorable qui combine liberté, financement public, salaire du pasteur, indemnité de logement, avantages fiscaux et non-ingérence de l'État. Ce régime, lorsqu'il fut établi, était tout à fait novateur, jamais vu auparavant. Et aujourd'hui encore, même si la plupart de vos églises n'en bénéficient pas à 100% ni ne roulent toujours sur l'or, nous pouvons affirmer qu'en Belgique, nous avons le beurre et l'argent du beurre. Mais il en a fallu des étapes pour en arriver là. Dans le territoire qui, il y a 500 ans, à l'époque de Luther, correspondait à l'actuelle Belgique, être protestant a été d'abord un délit et même un crime. Et ceci parce que le catholicisme était la religion d'État, donc la seule religion possible, la seule religion en raison d'une conception de l'État incompatible avec la pluralité des croyances. Toute divergence d'opinion religieuse par rapport à l'Église de Rome était assimilée à l'hérésie, mais aussi à la rébellion politique. L'unité politique était inséparable de l'unité religieuse. Croire différemment, c'était mettre en péril la stabilité de l'État. Or, les idées de Luther sont arrivées très rapidement dans notre pays et elles s'y sont enracinées. Dans de nombreuses villes, à Anvers, à Gand, mais aussi dans la région d'Audenarde, dans le Hainaut, dans la région d'Eupen et de Verviers en particulier. Et parce qu'on est alors dans une société non pas laïque, mais au contraire dominée par une Église omniprésente et incontournable, la répression des idées de la réforme à une époque où, il est vrai, le sang coulait facilement, s'est fait de plus en plus sévère à mesure que le mouvement progressait. La mise en place systématique de la répression a débouché sur des peines particulièrement lourdes qui sanctionnaient le simple fait d'acheter, de lire ou de conserver chez soi une Bible, ou même de chanter des psaumes en français. Et assez rapidement fut généralisée la peine de mort par des moyens qui n'étaient pas spécialement doux, à une époque où la délation fut également rendue obligatoire, sous peine pour un non-protestant d'être lui-même inquiété pour complicité de crime. Vous le savez probablement, mais l'actuelle Grand Place de Bruxelles a eu le triste privilège de voir périr les tout premiers martyrs de la Réforme. C'étaient deux moines augustins brûlés vifs pour avoir simplement manifesté quelques sympathies pour les idées de Luther. Bien sûr, tous les protestants des premiers temps n'ont pas connu la mort. Beaucoup se sont exilés par vagues successives et notre pays a connu un important mouvement d'émigration de la population vers des contrées plus favorables. Mais le temps des martyrs a quand même duré 74 ans. Entre le tout premier bûcher d'hérétique, celui dont je viens de parler, et la dernière exécution d'un protestant avéré dans nos régions, il s'est écoulé 74 ans. Pourtant, le nombre de personnes ayant adhéré aux idées réformées n'a cessé d'augmenter et des églises ont progressivement été fondées, organisées avec des anciens et des diacres. On y prêchait, on y célébrait des baptêmes, on y pratiquait la Sainte Cène et ces églises en sont même arrivées à se réunir en synode, d'abord dans la plus grande clandestinité, ensuite un peu plus visiblement. À un moment où l'autorité civile se montrait chancelante, il s'en est même fallu de peu que les protestants, qui étaient même parvenus à établir pendant quelques années des républiques calvinistes dans des villes flamandes, prennent le dessus. Mais c'était sans compter un retour à une répression toujours plus implacable. En Allemagne et en France, les conflits religieux ont débouché sur la paix, avec la coexistence pacifique, du moins pour un temps, des cultes catholiques et protestants. Mais ce n'est pas le cas dans nos régions. Et même si les exécutions capitales pour motifs religieux ont fini par cesser, les protestants n'en continuaient pas moins de subir de lourdes discriminations, à commencer par la clandestinité qui faisait toujours d'eux des marginaux dans une société dominée par une église catholique plus que jamais triomphante. Ils restaient privés des droits les plus fondamentaux, à commencer par les droits civils. Leur mariage n'était reconnu que s'ils étaient célébrés par des curés, puisque le mariage civil n'existait pas. Leurs enfants n'avaient d'existence officielle que s'ils étaient inscrits dans des registres catholiques, ce qui supposait qu'ils soient baptisés par des curés. Mais de toute façon, si leurs parents n'étaient pas officiellement mariés, ces enfants étaient des bâtards et n'avaient donc aucun droit, par exemple, à hériter de leurs parents. On n'était plus vraiment autant des martyrs, mais on était autant de ce que je qualifierais les ombres. La sortie de l'invisibilité n'a été que très progressive. La marche vers la liberté de conscience, c'est-à-dire vers le seul droit de penser, le seul droit de croire différemment, a été particulièrement longue. Et quel en a été le principal facteur favorable ? La ténacité de cette minorité, dont on ne pouvait que constater que les persécutions n'étaient pas venues à bout. Et puisque persécuter les protestants n'avait pas d'effet, ben il a bien fallu commencer à les tolérer. Et puis après tout, ils n'étaient pas vraiment nuisibles, et on constatait qu'ils l'étaient de moins en moins à l'état dont la conception se faisait de plus en plus neutre, à mesure, il est vrai, que l'emprise de l'Église sur la société se voyait remise en question. Mais pour cela, il a fallu que des philosophes, déistes, croyant vaguement en un dieu lointain, grand architecte de l'univers, mais attaché aux droits humains fondamentaux et aux principes d'égalité, réfléchissent à la société et éclairent de leur lumière, des lumières peut-être pas spécialement chrétiennes, mais des lumières au moins humanistes, des souverains européens, et notamment l'empereur d'Autriche, notre souverain, qui, le premier, va s'offusquer des vexations infligées aux protestants dans nos régions, au point de publier un édit de tolérance qui permettait enfin aux protestants de sortir de l'ombre. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'ils avaient désormais le droit d'exercer des emplois civils et d'accéder à tous les corps de métier, d'obtenir des diplômes universitaires, ce qui veut dire que jusqu'alors ce n'était pas le cas. Ils avaient aussi enfin le droit d'exercer leur culte, mais seulement en privé. Ils avaient le droit de construire des bâtiments à cet usage, oui, mais pour autant que ces bâtiments ne ressemblent pas à une église. En d'autres termes, on ne pouvait pas empêcher les protestants d'exister ni de vivre normalement, mais leur culte devait rester le plus discret possible, le catholicisme restant le seul culte autorisé publiquement. Là, on était en 1781. Plus de 250 ans après Luther. Ensuite, la première fois que la liberté d'opinion complète, même religieuse, quelle concession, a été déclarée dans notre pays, quelques années après la Révolution française et alors que nous étions devenus nous-mêmes français, cette liberté d'opinion était liée à l'égalité de tous les citoyens, mais en réalité, le régime mis en place accordait une large préférence aux citoyens athées. Le christianisme étant présenté comme du fanatisme dans une politique de déchristianisation et de violence antireligieuse dont a beaucoup souffert l'Église catholique, mais aussi, il faut le dire, dans une moindre mesure, la minorité protestante. À une époque où la guillotine fonctionnait à plein régime. Et on est donc passé d'une domination absolue de l'Église pendant 2 siècles sur tous les domaines de la société à son rejet intégral, laissant libre cours à tous les excès en la matière et la société sans plus beaucoup de points de repère. 10 ans après la Révolution française, qui a imposé donc une laïcisation brutale de la société et véritablement, passez-moi l'expression, bouffé du curé, mais aussi un peu du pasteur, arrive au pouvoir Napoléon. Alors Napoléon, lui, il revient à une attitude plus mesurée envers l'Église, convaincu que la religion est nécessaire à la stabilité de l'État. Il établit donc un accord avec l'Église de Rome, instaure le paiement d'un salaire aux ecclésiastiques et étend ce régime au culte protestant, mais moyennant des contreparties qui n'étaient pas légères. Une forte intervention de l'État dans l'organisation du culte. Par exemple, aucune décision en matière de doctrine ou de fonctionnement interne ne pouvait être prise sans l'accord du gouvernement. Les anciens, devaient être choisis parmi les membres de la paroisse. Certes, c'est normal. Mais lesquels ? Les plus pieux ? Les plus vertueux ? Les plus sages ? Les plus appréciés ? Mais non, bien sûr. Les plus imposés au rôle des contributions directes. En d'autres termes, les plus riches. Pour fonder une église avec un conseil d'anciens, il fallait réunir 6 000 âmes. Je ne sais pas, Combien d'âmes comptent vos églises reconnues par l'État, mais... Chiffre qui, bien évidemment, était loin d'être atteint alors en Belgique. Ensuite, voilà que le régime de Napoléon s'effondre, que la carte de l'Europe est redessinée et que la Belgique passe sous la domination néerlandaise, hollandaise. Et là, pour la première fois en près de 300 ans, les protestants belges se retrouvent sous un régime politique où le catholicisme est minoritaire et sur lequel règne un souverain calviniste. Situation enfin favorable au développement du culte protestant qui va commencer à bénéficier d'une organisation complète, certes toujours moyennant une très forte ingérence de l'État. La prospérité évangélique actuelle est en fait la conséquence d'une très belle page de l'histoire de l'Église, mais aussi de l'histoire de Belgique, qui est pourtant largement ignorée des manuels scolaires et de l'histoire officielle. Je parle du réveil protestant qui s'est produit non pas il y a 500 ans, mais il y a environ 200 ans. On assiste alors à une explosion missionnaire sans précédent qui fait de la Belgique, d'abord de la Belgique hollandaise, puis de la Belgique souveraine, celle d'après 1830, une terre d'évangélisation comme jamais auparavant et comme jamais lors depuis. On voit en effet se multiplier indépendamment les uns des autres les courants et les œuvres missionnaires sans qu'il s'agisse d'un phénomène coordonné. Et en dépit de ce qui différencie ces œuvres qui s'implantent successivement sur le sol belge, frères larges, darbistes, salutistes, baptistes, méthodistes, pentecôtistes, mais aussi bien évidemment représentants de la mission évangélique belge, pour citer les plus grandes familles évangéliques, tous contribuent à faire de la Belgique une terre de mission. Alors il faut dire évidemment que ces missions ont devant elles un véritable boulevard. En raison du contexte belge très avantageux, le premier roi des Belges, faut-il le rappeler, était luthérien. Il fallait quand même oser aller chercher un prince luthérien dans une Belgique longtemps si catholique. Mais l'Église catholique, très affaiblie par la Révolution française, avait perdu son emprise sur la société. Et puis, le régime des libertés et du financement public des cultes inscrit dans la Constitution était particulièrement favorable aux minorités, donc aux protestants, qui, pour la première fois de leur histoire sur notre territoire, sont traités à égalité avec le catholicisme, toujours majoritaire, et sans l'ingérence de l'État. C'est le régime dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le beurre et l'argent du beurre. Mais tout est à construire. Après le temps des martyrs, après le temps des ombres, c'est véritablement le temps des pionniers. Ce travail énorme se fait par la production et l'impression en grande quantité d'une littérature missionnaire et d'édification, par la production de bibles, de brochures, par le travail des colporteurs. Vous savez, ces petits marchands ambulants qui sillonnaient les villes et les campagnes, transportant leur littérature dans des paniers, dans des hottes, dans des charrettes à bras, tirées par des chevaux ou par d'autres bêtes de somme. Ces colporteurs qui préparaient l'action des prédicateurs, eux aussi itinérants, prédicateurs qui prêchaient dans des domiciles privés, dans des cuisines, mais aussi sur la voie publique. Pour citer un texte extrait des archives d'une église de Liège, le chœur qui chante au coin de la rue, le prédicateur en plein vent, les visiteurs colporteurs, ces volontaires de l'évangélisation, ne ménageaient ni leur peine ni leur voix, et redoublaient de dévouement et de persévérance. Et c'est dans la souffrance que les premiers postes missionnaires, qui sont ensuite devenus des églises locales, ont été ouverts. Il faut aussi savoir que le régime de l'égalité et de la liberté des cultes, chèrement acquise et non conquise, a mis bien du temps à se concrétiser, car la réaction de l'Église et de la population qui lui était dévouée ne s'est évidemment pas fait attendre. Et concrètement, c'est au prix d'une très vive opposition que les églises locales se sont enracinées et ont grandi. Chantage au licenciement et même licenciement sec, sans indemnité de chômage, évidemment. Perte de logement, on ne louait pas à des protestants. Insultes, jets de pierre, menaces de mort ont été le sort réservé aux pasteurs et aux membres des communautés, chahuts aux abords des églises à l'heure du culte ou devant les maisons où se tenaient les réunions, séquestration dans les familles, perturbation de funérailles, interdiction aux cercueils de protestants d'entrer dans les cimetières par la porte principale, obligeant certains à passer par-dessus les murs, et inhumation dans les parcelles réservées aux suicidés, avec toute la honte qu'en subissaient bien évidemment les familles. Ne blâmons pas trop vite l'Église. L'Église revenait de très loin. Elle revenait de très loin après des siècles de domination et de monopole et après une déchéance complète à la Révolution française. Et pendant une grande partie du XIXe siècle, ce qu'on appelle des encycliques, c'est-à-dire des circulaires émis par les papes, condamne la liberté de culte comme étant le mal absolu et confirme qu'en dehors de l'Église catholique, personne ne peut être sauvé et que ceux qui sont rebelles à son autorité ne peuvent pas obtenir le salut éternel. Le temps des pionniers, malgré le boulevard que leur offrait le régime des cultes en Belgique, c'était aussi des temps héroïques. Mais ces temps héroïques ont également été des temps particulièrement féconds et fructueux pour les Églises. Il faut retenir que le réveil protestant et la croissance des Églises se sont produits dans l'adversité et la persévérance, la ténacité des fidèles des Églises, bien sûr, mais surtout et d'abord dans la souffrance des colporteurs, des prédicateurs et des pasteurs, desservant souvent plusieurs postes missionnaires, parfois éloignés de plusieurs dizaines de kilomètres, qu'ils visitaient à pied ou à cheval, y laissant généralement leur santé. J'en viens à mon deuxième point. S'il est bien une constante tout au long de l'histoire du protestantisme belge, c'est le rôle de l'étranger. Les églises protestantes n'ont pu se développer dans notre pays puis se maintenir que grâce à une présence étrangère. Je vous ai dit que contrairement à leurs voisins allemands et français, pendant 250 ans, les protestants de Belgique n'avaient jamais connu de véritable répit. Aucun épisode durable d'apaisement religieux, aucune liberté officielle, pas même celle de croire différemment, aucune reconnaissance de leur existence. Au contraire, le régime de la répression de leurs idées et les guerres civiles qui s'en suivirent ont débouché sur une rupture. Rupture politique et formation d'un nouvel État, un État calviniste, au nord de notre pays actuel et qui correspond aujourd'hui au royaume des Pays-Bas. Triste évolution, a priori. évolution encore beaucoup plus grave que ce qui se passe en Catalogne. Évolution irrémédiablement affaiblissante pour la Belgique, que de nombreux protestants des régions flamandes se sont alors, et d'ailleurs pas pour la première fois, empressés de quitter, emportant bien évidemment leur savoir-faire et toute une main-d'œuvre. Mais rapidement, les intérêts économiques et politiques, en d'autres termes la raison d'État, ont pris le dessus et tempéré cette fermeture. Les nécessaires échanges commerciaux, les nécessaires relations diplomatiques avec l'ouverture d'ambassades, l'installation de garnisons militaires sur nos frontières ont procuré un véritable ballon d'oxygène à notre minorité protestante clandestine, privée d'églises et de pasteurs, mais qui a trouvé au contact des ressortissants hollandais, anglais, écossais, allemands, suisses, donc anglicans, luthériens, calvinistes, qui, eux, étaient autorisés à exercer discrètement leur propre culte, notre minorité protestante y a trouvé l'opportunité de se maintenir. Et l'essor du protestantisme dans la Belgique indépendante, ce foisonnement de missions que j'ai évoqué il y a quelques minutes, mais n'est autre que le fruit d'influences étrangères. Suisse, anglo-saxonne, allemande dans un premier temps, américaine en Suisse, notamment avec la mission évangélique belge, avec les églises méthodistes, avec le pentecôtisme, pentecôtisme dont il faut préciser qu'il a été importé en Belgique des États-Unis par un pasteur norvégien et par un évangéliste suisse soutenu par une mission suédoise. Et puis, on assiste bien évidemment, mais aux phénomènes migratoires méridionaux et slaves, l'immigration italienne, polonaise, espagnole, et puis l'immigration africaine et latino-américaine a joué et continue de jouer un rôle moteur dans le développement de nos églises qui aujourd'hui sont pour la plupart multiculturelles et multiethniques. Et si la plupart des dénominations d'églises ont envoyé et soutenu des missionnaires à travers le monde, aujourd'hui, le mouvement missionnaire s'est géographiquement renversé et ce sont les pays que nos prédécesseurs ont évangélisés qui nous réévangélisent à leur manière et, bien normalement, dans leur style. Mais sans l'immigration chrétienne en provenance des pays du Sud, nos églises évangéliques se seraient peut-être bien éteintes et aurait fermé. Outre le fait que le protestantisme n'est plus seulement européen ni même américain, mais qu'il est devenu mondial, c'est à cette évolution et à cette ouverture de notre société que de nombreuses églises évangéliques en Belgique doivent leur vitalité, leur dynamisme et peut-être bien leur avenir. Le vivre ensemble, présenté comme une question de société, est peut-être d'abord une question et un défi pour les églises. Troisièmement, on ne le dit pas suffisamment, mais la grande diversité que présentent les évangéliques est vraiment une richesse. Diversité culturelle, diversité linguistique, diversité de nationalité, mais aussi au sein du monde évangélique qui est très complexe, diversité de formes de culte avec tous les styles musicaux, tous les styles de louanges, tous les styles de prédication, tous les styles de pasteurs, diversité de fonctionnement interne, d'organisation et parfois même de doctrine sur certains points potentiellement sensibles, le Saint-Esprit et les dons spirituels, l'attente ou non d'un millénium, le rôle du pasteur, qui n'est pas toujours très clair, et puis la place de la femme, dont on ne sait pas toujours quoi faire. Cette diversité évangélique, non sans tension occasionnelle, qui sont la marque d'une véritable vitalité et qui montrent que le mouvement est vivant, est un fruit de la réforme et, oserais-je même ajouter, un de ses plus beaux fruits et un de ses héritages les plus précieux. La réforme, non contente d'imposer de fait cette diversité dans une société religieusement assez figée, s'est elle-même caractérisée par la multiplicité des approches. Elle a introduit du mouvement. Et elle a introduit une rapide pluralisation, non du message de l'Évangile, mais de sa compréhension. Et ceci dès l'époque de Luther, et parce que Luther, dont on parle beaucoup pour le moment, était loin d'être seul. De nombreux autres théologiens lui ont emboîté le pas en développant leur propre compréhension des Écritures, parce que la pensée de Luther a dû donner lieu à des adaptations, à des ajustements et parfois aussi à quelques critiques, notamment sur la conception de la Sainte Cène. Sainte Cène, présence réelle du corps et du sang de Jésus dans le pain et le vin, ou simple symbole, comme nous le croyons plutôt dans nos églises d'orientation réformée. Controverse très importante qui conduira à une rupture radicale au sein du protestantisme naissant. Et que dire de la question du baptême qui, j'y reviendrai, ajouté à d'autres encore, a provoqué elle aussi une fracture irrémédiable, si bien qu'un peu plus de 10 ans après les premières manifestations publiques de Luther, il existait déjà 4 confessions de foi protestantes différentes. Une confession luthérienne, bien sûr, une confession zwinglienne. Zwingli, c'est un peu le réformateur de la Suisse alémanique, une confession anabaptiste, et j'y reviendrai, prônant et pratiquant, contrairement aux deux autres, le baptême par immersion des adultes confessants, et une confession qui tentait de concilier les deux premières. Ce qui donna lieu à de regrettables conflits dans l'histoire du protestantisme, mais n'est en réalité autre que l'application d'un des grands acquis de la réforme, l'autonomie spirituelle du croyant dégagée de la tutelle de l'institution ecclésiastique et sa liberté d'accéder aux Écritures, de les lire dans sa propre langue, de les comprendre, de les interpréter et de penser par lui-même. Ce qui pourrait ressembler à un individualisme égoïste et incontrôlable n'est autre que le joyeux échange dont parle beaucoup Luther, ce joyeux face-à-face du croyant avec son Dieu, avec la Bible, avec son unique source de vie. Au fil des siècles et des influences, la diversité des sensibilités et des compréhensions du message de base n'a cessé de s'accentuer. En Belgique, aujourd'hui, on compte plus de 30 dénominations protestantes distinctes, qui divergent parfois sur des nuances, ce qui peut donner l'image d'un paysage pulvérisé et d'une absence d'unité. Dans les églises, on a beau parfois le déplorer, on aimerait parfois être les seuls, avoir un monopole en tant qu'évangélique, et peut-être même en tant qu'évangélique de l'AEPEB. Mais on oublie un peu vite que c'est la réforme qui a introduit cette pluralité, soutenue bien sûr par la liberté des cultes, souvent décriée comme étant la porte ouverte à un marché spirituel, mais sans ce pluralisme, nous n'existerions tout simplement pas en tant qu'évangéliques. Il faut constater qu'on dénie souvent à l'autre les droits qu'on revendique pour soi-même. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer, de vous lire un autre texte, toujours extrait, non pas de la Bible, mais des archives. Des archives toujours de la même église, l'église de Courcelles. On est en 1917. Et le pasteur écrit ceci en 1917. « Nous avons une grande joie à inscrire de nouveaux membres, mais nous nous rappelons que tel n'est point notre but. Nous ne voulons pas ressembler à ceux qui couraient la terre et la mer pour faire un prosélyte. Nous serions heureux si même sans gagner un seul membre à notre Église, nous savions que grâce à notre témoignage, le Christ vit dans les cœurs et inspire la conduite de nos frères catholiques ou libres penseurs. Plus nous serons débarrassés de toute étroitesse, de tout esprit de clocher, vraiment désintéressés, plus nous attirerons à nous les âmes qui ont soif de Dieu et qui cherchent un foyer où règne l'amour fraternel, l'espérance et la sincérité. » Et lorsqu'il écrit cela, on constate déjà que dans de nombreuses petites localités du Hainaut coexistent des églises protestantes de dénominations différentes qui sont le résultat de ce formidable élan missionnaire. Je suis personnellement admirative devant le programme d'événements que le mois dernier, des églises évangéliques de la région du centre, de dénominations très différentes, ont pu organiser ensemble. Et le culte du dimanche 15 octobre sur la place communale de la Louvière, commun à l'AEPEB, l'APEB, l'AMEB, l'Armée du Salut, les églises pentecôtistes italiennes et aussi les pubs, et j'en oublie peut-être, étaient vraiment un grand moment. On oublie que le cœur permanent du message de la réforme est limité seulement à quelques principes absolument fondamentaux, la justification par la foi, la responsabilité individuelle du croyant devant Dieu, le salut gratuit en Jésus-Christ seul, la Bible seule, et rien d'autre. Et on perd de vue que tous les protestants qui professent sincèrement ces fondements, même, j'ose le dire, les moins évangéliques, tous sont les héritiers de la réforme. Réforme protestante menée par des personnalités très diverses, certaines aux accents plus intellectualisantes et rationalistes, d'autres plus mystiques, et parfois même, tenez-vous bien, plus spiritualistes. Et déjà à l'époque de Luther, on rencontre quelques pentecôtisants. Et si nous avons parfois tendance à penser être davantage que d'autres dénominations protestantes les héritiers de la réforme, je me demande si nous ne tordons pas un peu l'histoire. Quatrième élément. Il en a fallu des étapes. Il en a fallu un cheminement pour que se forge notre identité spirituelle, pour que nous soyons ce que nous sommes. Notre identité spirituelle et ecclésiale actuelle est le résultat d'une longue évolution, non pas de la vérité biblique, mais de sa compréhension qui n'a été que très progressive. Si nos racines spirituelles sont lointaines, puisqu'elles remontent à plus de 2000 ans, elles sont aussi complexes et composées de nombreux intermédiaires à qui nous sommes redevables de très belles découvertes. Le premier réveil dont nous sommes issus, c'est évidemment celui de Luther. Luther, à qui nous devons d'avoir compris ce texte fondamental de l'Épître aux Romains, Romains chapitre 1, verset 17, « Le juste vivra par la foi ». Luther, à qui nous devons d'être retournés aux Écritures et qu'on peut considérer un peu comme notre arrière, 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 grand-père spirituel, lointain fondateur de ce que croient et professent nos églises, principal initiateur d'un mouvement très rapidement relayé par d'autres théologiens allemands, suisses, français. Mais Luther était un homme de son temps, avec sa culture, avec son arrière-plan, avec ses limites, avec ses contradictions, avec ses faiblesses, avec ses zones d'ombre, mais aussi avec sa part de lumière, avec ses excès et parfois quelques écarts de langage, comme chacun de nous, en quelque sorte. Et puis, certaines prises de position de Luther sont parfois un peu gênantes, et je n'ai pas besoin de les rappeler. La pensée de Luther qui était inaboutie n'est donc qu'un point de départ. Par exemple, Luther n'a jamais pensé à renoncer au baptême des enfants, j'y ai déjà fait allusion, ni à introduire de changements dans le culte sans l'accord des autorités civiles. Nos racines réformées se retrouvent plutôt dans une forme parallèle de la réforme, une forme contemporaine à celle de Luther, celle qu'on appelle la réforme anabaptiste, du grec « ana » qui signifie « de nouveau ». Les anabaptistes avaient cette particularité de pratiquer le baptême par immersion des adultes convertis. Ça vous paraît tellement évident, mais en fait c'était absolument révolutionnaire. Et puis, ils ont aussi introduit les communautés de professants et non de multitudes, c'est-à-dire des communautés et des églises composées de personnes ayant réellement fait profession de foi. Et puis, ils ont aussi introduit l'indépendance par rapport aux autorités civiles, l'autonomie des communautés les unes vis-à-vis des autres, en gros ce qu'on appelle le congrégationalisme. Marginaux parmi les marginaux, les anabaptistes ont, bien évidemment, été les plus persécutés des protestants. Persécutés dans les États catholiques, persécutés aussi dans les régions protestantes de l'Europe, qu'ils sont d'ailleurs contraints de fuir de partout. Mais on les retrouve au nord des Pays-Bas, à travers les Mennonites, si le nom vous dit quelque chose. Et puis on les retrouve en Angleterre, chez des dissidents de l'anglicanisme au début du XVIIe siècle, qui vont fonder les premières églises baptistes, pratiquant bien évidemment elles aussi le baptême par immersion des adultes lié à une démarche consciente de conversion. Mais il faut savoir que nous sommes les héritiers d'une succession d'autres réveils qui se sont manifestés à des moments d'assoupissement des églises protestantes, fortement institutionnalisées, ritualisées, étatiques, caractérisées par une tiédeur spirituelle, par une orthodoxie et un dogmatisme sec et figé. Autant de réveils qui ont apporté des éléments de compréhension supplémentaires. Par exemple, le réveil piétiste, dans l'église luthérienne allemande du XVIIe siècle, confortablement installée. Eh bien, ce réveil a apporté l'étude personnelle systématique de la Bible et il a introduit les réunions privées dans l'intimité des foyers pour contrebalancer le cadre solennel et public des églises, inaugurant ainsi ce qui ressemble à nos groupes de maison. Et puis, il y a eu le réveil méthodiste en Angleterre, avec John Wesley, qui a inauguré, quant à lui, les grandes tournées d'évangélisation, la prédication en dehors des églises, sur les pentes des terrils devant des auditoires spontanés et populaires, les auditoires des ouvriers des charbonnages anglais. Mais aussi, le méthodisme a introduit ce souci pour les plus défavorisés. Et c'est d'ailleurs du réveil méthodiste en Angleterre qu'est issue l'armée du salut qui s'est développée dans la banlieue de Londres avant de se répandre dans l'ensemble de l'Europe. Autre réveil issu de l'anglicanisme, les assemblées de frères, larges ou d'arbistes, sont revenues, quant à elles, à une application plus stricte du sacerdoce universel, relativisant fortement les ministères institués, mais en particulier celui du pasteur qui s'était fortement cléricalisé. Et puis le courant évangélique doit aussi beaucoup au réveil pentecôtiste, qui a des origines lointaines et qui, lui, a apporté un rééquilibrage dans la pratique des dons spirituels. Et donc, ce que je voudrais affirmer ici, c'est qu'une telle brochette de prédécesseurs, si je puis me permettre, devrait sans doute, dans le contexte d'une Église très morcelée, nous ramener à une juste bienveillance envers nos frères baptistes, darbistes, pentecôtistes, et j'en passe. Pour nous approcher tout doucement de la conclusion, ces épisodes de redynamisation de la foi et de la vie intérieure n'ont pas été davantage révolutionnaires que ne l'était Luther lui-même vis-à-vis de Rome. Loin de toute intention schismatique, ils ont été motivés par l'amour de l'Église. Cela ne s'est pas fait sans douleur. Il y a eu des ruptures salutaires qui ont ramené l'Église non pas à sa forme primitive, mais à ses fondements et à sa véritable source. Ces réveils se sont tous produits en phase avec leur temps, dans le contexte de leur époque, selon un agenda parfait. Non, tout n'a pas commencé avec la mission évangélique belge. Le réveil protestant belge, dont nos églises sont issues, n'est pas un fait unique dans l'histoire de l'Église, mais il se situe dans le contexte et dans la continuité d'épisodes récurrents qui ont chacun contribué à construire l'édifice spirituel qui est le nôtre. La compréhension que nous avons de la Bible n'est autre que le résultat d'un long processus qui pourrait d'ailleurs nous amener à relativiser nos certitudes, parfois érigées en dogmes, sur des points quelquefois secondaires. Et je voudrais terminer par ces quelques considérations. Le succès des réveils tient en grande partie à une évangélisation non pas déconnectée de la réalité matérielle, sociale et psychologique des personnes, mais à l'écoute de l'ensemble de leurs besoins. Les prédicateurs et les pasteurs de nos premières églises étaient des hommes de terrain, soucieux de rejoindre l'homme de la rue dans ses préoccupations, dans ses handicaps, dans son vécu et dans son quotidien. En Belgique en particulier, le succès des différentes missions s'explique par une vision globale de l'individu qu'avaient développé les églises. On les voit s'engager à travers le soutien à des sociétés de tempérance comme la Croix-Bleue dans la lutte contre l'alcoolisme. On les voit s'engager dans la lutte contre l'analphabétisme par l'ouverture de très nombreuses écoles primaires qui deviendront ensuite les écoles du dimanche, mais aussi par la mise en place de tout un encadrement de la jeunesse. Ce qui me frappe lorsqu'on étudie le développement de ces églises, c'est l'amour, non pas seulement pour les perdus, mais aussi ensuite pour les âmes sauver. En cet anniversaire de la Réforme, on rappelle volontiers la justification par la foi, le salut gratuit en Jésus-Christ, les cinq solas, et c'est vrai. Mais Luther n'était ni un révolutionnaire, ni un missionnaire. C'est à l'Église qu'il s'adresse, à des croyants. Peut-être pas au sens où l'entendent les églises évangéliques, mais à des croyants sincères dans leur conviction et dans leur dévotion. Et on oublie de dire aussi qu'en rendant à l'homme le vrai chemin vers Dieu, Luther a posé un acte d'amour envers toute l'humanité. Lorsque, dans la situation d'églises éventuellement moins prospères que ce qu'en disent les sociologues, nous pensons comme dans le psaume 77, que le Très-Haut n'agit plus comme autrefois, nous pouvons nous demander si, je cite toujours le psaume, Dieu n'a pas cessé pour toujours de parler et s'il n'a pas oublié de manifester sa faveur. Le souvenir peut conduire à la mélancolie et découragement, à la nostalgie des jours passés. Mais le psalmiste se souvient des temps anciens, non pas à la manière d'un Verlaine, je me souviens des jours anciens et je pleure, mais il se souvient des temps anciens et se redit tout ce que l'Éternel a fait et médite sur l'œuvre de ses mains. La connaissance peut donc conduire à la reconnaissance. Par ailleurs, l'on peut se demander si certaines églises, plus ronronnantes que rayonnantes, n'ont pas perdu de vue la juste perspective de leur raison d'être. Mais un autre grand message de la réforme, c'est la notion de réforme elle-même, selon l'expression d'ailleurs de nombreux théologiens avant et après Luther, l'Église réformée est toujours à réformer. Aujourd'hui, cet après-midi, c'est avec le même amour que celui de Luther et d'autres réformateurs à sa suite pour l'Église que je vous ai parlé de votre histoire. Puissiez-vous avoir un cœur pour connaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je vous remercie.